le journal, c'est avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En Grèce, le gouvernement de Tsipras de nouveau confronté à un vote du Parlement aujourd'hui ou demain. L'accord trouvé avec les créanciers du pays a été remis aux députés grecs cette nuit, correspondance d'Angélique Kourounis à Athènes.
C'est bien un missile tiré du sol et de fabrication russe qui aurait abattu en juillet 2014 un avion de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine. 298 personnes à bord. Mais attention, tous les belligérants concernés dans le conflit ukrainien posséderaient ce type de missile, analyse à Bruxelles de Johanna Hochstein.
À suivre également l'agacement des éleveurs de porcs français car le bras de fer continue autour du prix de la viande. Si la grande distribution compte respecter les prix fixés par le gouvernement, ce n'est pas le cas des deux plus gros industriels du secteur. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les prix pratiqués par leurs concurrents européens, notamment en Allemagne. Correspondance à Berlin avec Cyril Sauvageau. L'accord sur un troisième plan d'aide à la Grèce est désormais entre les mains des parlementaires à Athènes. Un document de 400 pages a été déposé cette nuit à la Voulie. Il énumère les efforts budgétaires et les réformes que la Grèce devra mener dans les trois prochaines années. En échange, les créanciers du pays accorderaient 85 milliards d'euros de prêts, le troisième plan d'aide depuis 2010. Les précisions d'Angélique Kourounis à Athènes.
Le Premier ministre grec souhaite que le vote ait lieu le plus rapidement possible, mais la présidente du Parlement, qui s'oppose à ce troisième mémorandum d'austérité, exige qu'au préalable, comme le prévoit le règlement, les députés aient le temps de lire et d'étudier la loi sur laquelle ils sont appelés à voter. Cependant, Athènes présente cet accord comme une victoire, car il assure un apport d'argent frais, évite pour l'instant la récapitalisation des banques via des ponctions dans les dépôts. Enfin, il exclut toute nouvelle mesure récessive pour les trois ans à venir. Mais pour l'Allemagne et la presse grecque s'en fait les grands titres, ce plan n'est qu'un accord technique, il reste à trouver un accord politique. C'est le terme employé par la Commission européenne qui a douché l'optimisme grec. Cette réserve des partenaires européens de la Grèce est mise en avant par la contestation interne du parti de la gauche radicale au pouvoir, le Syriza, qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait voter contre ce plan jeudi. L'aile gauche exige désormais des élections anticipées dès l'automne. Alexis Tsipras n'est pas opposé, même si depuis hier, la porte-parole du gouvernement insiste sur le fait que ce nouvel accord éloigne d'autant le recours aux urnes. Tous les sondages donnent Alexis Tsipras gagnant en cas d'élection, mais sans majorité absolue, ce qui le rendrait otage de l'opposition conservatrice, centriste et socialiste qui le soutient pour l'instant, ne pouvant faire autre chose vu que selon ces mêmes sondages, socialistes et conservateurs sont en chute libre alors que le parti néo-nazi reste troisième force politique à égalité avec les centristes.
Il reste à savoir si ce texte sera formellement entériné d'ici le 20 août, date à laquelle la Grèce doit rembourser 3,4 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. L'Allemagne continue de plaider pour un pré-relais de quelques jours afin d'éviter un défaut de paiement à la Grèce. La Grèce qui est confrontée à une crise économique, le pays doit aussi faire face à la arrivée de migrants, notamment à Kos, une île isolée en face de la Turquie. Les associations humanitaires y sont submergées par l'afflux de demandeurs d'asile, des migrants qui attendent dans des conditions déplorables que la police examine leur situation. Le récit sur place de Constance Tison, elle travaille pour Médecins sans frontières.
Sur l'île, en ce moment, on a entre 4 000 et 5 000 personnes. Et les autorités locales ont décidé de déplacer tout le monde vers un stade de gravier sans aucune ombre pour les enregistrer et leur donner le papier dont ils ont besoin pour quitter l'île. Et donc les personnes doivent attendre en plein soleil. Donc les esprits se sont un petit peu échauffés. Il y avait 2000 personnes au stade qui essayaient désespérément de communiquer leur nom à la police pour pouvoir se faire enregistrer. La police utilisait des extincteurs sur la foule pour la disperser, des matraques. Absolument inacceptable. On peut absolument rien attendre des autorités locales sur Kos, qui sont persuadées envers et contre tout que créer une forme, même minime de réception, que ça conduirait soi-disant plus de personnes à venir sur l'île. On demande en fait depuis l'année dernière aux autorités grecques d'installer un minimum, des standards vraiment vraiment minimum de réception, de la nourriture, de l'hébergement, un minimum d'hygiène. Rien n'a été fait.
Constance Tison de Médecins sans frontières, interrogée par Antoine Gignot. En Libye, des missions surprises du Premier ministre reconnues par la communauté internationale. Abdallah Al-Tini, exilé à l'est du pays depuis la prise de contrôle de la capitale Tripoli l'été dernier par des milices. Il a annoncé sa démission à la télévision hier soir, très critiquée par les téléspectateurs. Il a répliqué « Si ma démission est la solution, alors je l'annonce ici ». Une décision qui intervient alors que des pourparlers de paix se tiennent aux Nations Unies à Genève. L'objectif a aux différents protagonistes un accord pour un gouvernement d'union nationale. Un cessez-le-feu de 48 heures a été décrété dans plusieurs villes syriennes. Des groupes islamistes et des partisans du régime de Bachar al-Assad se sont mis d'accord pour suspendre les combats, le temps de négocier la levée de plusieurs sièges. Selon les experts chargés d'enquêter sur le crash du vol MH17, c'est bien un missile tiré du sol et de fabrication russe qui aurait abattu en juillet 2014 un avion de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine. 298 personnes étaient à bord. Les belligérants concernés par le conflit posséderaient tous ce genre de missile, Buk, Kiev et les séparatistes pro-russes. Les précisions de Johanna Hochstein à Bruxelles.
Selon les informations révélées par le bureau d'enquête pour la sécurité aux Pays-Bas et par le parquet néerlandais, les fragments retrouvés sur les lieux du drame pourraient être des débris de missiles de type Buk, fabriqués par l'industrie militaire soviétique dès le début des années 1970. Leur particularité, ils sont tirés depuis le sol, possèdent un système de lancement très sophistiqué et peuvent facilement atteindre l'altitude de 33 000 pieds à laquelle volait le Boeing 777 le jour du drame. Ces missiles sont très répandus aujourd'hui. La Russie en possède beaucoup, l'Ukraine également. Et selon plusieurs rapports, ces projectiles pourraient également être tombés aux mains des rebelles séparatistes pro-russes. Cette découverte conforte donc l'hypothèse de départ de l'avion touché par un missile sol-air. Le rapport préliminaire publié fin de l'année dernière avait déjà permis d'écarter les scénarios d'une défaillance technique ou d'une erreur humaine.
L'optimisme d'Idriss Déby, le président tchadien, affirme que le groupe islamiste Boko Haram est décapité grâce à une force régionale, a déclaré Idriss Déby. Nous sommes en mesure de mettre définitivement hors d'état de nuire Boko Haram. En attendant, au moins 47 personnes ont été tuées hier et une cinquantaine de blessées dans une explosion sur le marché d'un village situé dans le nord-est du Nigeria. Dans la chasse contre l'organisation État islamique, la Turquie dit avoir convenu avec les États-Unis de l'instauration d'une zone dite de sécurité sur une portion de sa frontière avec le nord de la Syrie. Ankara souhaite y réinstaller une partie des réfugiés syriens qu'elle abrite actuellement sur son territoire et y établir la souveraineté de groupes rebelles syriens. C'est une zone qui a été abandonnée lundi par le front al-Nosra et où l'État islamique a reconquis le même jour le village de Maréa, ce qui en dit long sur la difficulté à stabiliser ce bout de territoire. La correspondance à Istanbul de Jérôme Bastion pour RFI.
Le nom même de cette bande de 90 km de long et de 45 km de profondeur, c'est-à-dire jusqu'au faubourg d'Alep, pose problème. Les Nations Unies ont tout d'abord réfuté le terme de zone de sécurité qui impliquerait une garantie internationale. Les États-Unis démentent qu'il puisse s'agir d'une zone d'exclusion aérienne, bien que la Turquie en rêve depuis longtemps, parce que cela impliquerait un risque de conflit avec Damas. Ce sera donc une zone protégée, débarrassée et exempte de toute présence de l'État islamique que les avions de la coalition pourront bombarder désormais, maintenant que la Turquie a ouvert ses bases aériennes aux Américains. Voilà pour la définition à minima, mais dans le détail, beaucoup de points restent en suspens, voire divisent Ankara et Washington, qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. La Turquie, par exemple, ne veut pas y voir un seul combattant kurde, mais les États-Unis ont prévenu qu'il n'était pas question de frapper ou chasser l'armée kurde du pays grec D, qu'ils considèrent comme leur meilleur allié contre l'État islamique. Hier, un diplomate turc affirmait que toute présence de l'armée nationale syrienne, donc du régime de Bachar el-Assad, serait combattue, mais il est certain que l'armée américaine n'envisage aucunement de s'opposer à cette éventuelle présence. Pour Washington, il n'est pas question de présence militaire au sol non plus, alors qu'Ankara se dit aujourd'hui prêt à déployer des forces terrestres. Bref, il y a plus de points de désaccord et de zones d'ombre autour de ce projet que de certitude.
Jérôme Bastion à Istanbul pour RFI. Wikileaks s'attaque au TAFTA, le projet de traité commercial entre les États-Unis et l'Europe, très controversé des deux côtés de l'Atlantique. La plateforme internet de lanceurs d'alerte promet une récompense à toute personne qui révélerait le contenu du traité qui se négocie avec discrétion depuis 2013. Les députés européens ont obtenu plus de transparence en insistant sur la diversité culturelle ou la protection de la vie privée, mais les accusations se sont multipliées contre la méthode de négociation. Wikileaks surfe donc sur cette vague anti-TAFTA et propose une récompense de 100 000 dollars. Pour réunir cette somme, le site lance un appel aux dons qui connaît déjà un certain succès, Marion Lourd.
Wikileaks lève une récompense de 100 000 euros pour le secret le mieux gardé d'Europe.
Sur le site de Wikileaks, une vidéo raconte la genèse du traité transatlantique, présentée comme un moyen pour les États-Unis de dominer le commerce mondial. Durant 11 minutes s'enchaînent des archives, interventions de journalistes, d'associations et du fondateur de Wikileaks lui-même, Julian Assange.
Si les parlementaires européens veulent voir le TAFTA, ils doivent aller à l'ambassade américaine, remettre à l'entrée tous leurs appareils électroniques. Ils doivent accepter de garder le contenu confidentiel et se rendre dans une salle sécurisée pour lire l'accord. Je ne vois pas comment les parlementaires pourraient comprendre ce qu'ils négocient.
En fait, certains documents sont disponibles sur le site de la Commission européenne, d'autres ont fuité, mais c'est vrai, une partie reste confidentielle et l'appel convainc déjà des donneurs célèbres. L'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, la créatrice de mode, Vivienne Westwood. Plus de 600 personnes promettent déjà de l'argent, plus d'un tiers de la récompense semble assurée, levier indispensable pour Julian Assange.
L'histoire de ces accords montre qu'ils sont très difficile à changer, sauf si les gens voient ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on les garde secrets. Quand le contenu est révélé, ça crée une opposition.
Opposition souhaitée par le fondateur de Wikileaks. Il se vante d'avoir déjà fait rejeter en 2012 l'ACTA, un autre accord commercial transatlantique.
Les lanceurs d'alerte ont un peu de temps. La négociation du traité transatlantique ne devrait pas s'achever avant mi-2016. Le Conseil européen et le Parlement européen devront ensuite ratifier ou non l'accord. Un soutien inattendu pour les éleveurs de porcs français. Hier, les enseignes Casino, Intermarché et Leclerc ont annoncé qu'elles paieraient la viande 1,40€ le kilo, le prix fixé par le gouvernement en juin dernier pour revaloriser la filière porcine. Mais une question reste en suspens. La cotation du prix de la viande de porc va-t-elle pouvoir reprendre ? Réponse demain à l'issue d'un conseil d'administration du comité régional porcin en Bretagne. Avant-hier, la séance de cotation du marché au cadran de Plérin qui fixe le prix du porc en France a été boycottée. Côté par deux poids lourds de l'industrie agroalimentaire. Bigard et la Coperle refusent de payer le prix plancher, réévalué après les négociations entre le gouvernement et les éleveurs. Des éleveurs de plus en plus agacés par ces tensions. Le reportage de Johan Moison chez un producteur de porc à Hénensalle dans les Côtes d'Armor.
Emmanuel Roux se bat pour survivre, comme il dit. Ce père de trois enfants, âgé de 45 ans, possède un élevage de porc de taille moyenne, situé à une demi-heure de route de Saint-Brieuc. Son travail à la ferme, plus les actions de ces dernières semaines, l'ont fatigué.
Je me suis installé, j'ai pas demandé à aller faire le guignol tous les jours, faire des actions depuis le mois de février, même avant. Tout ça, c'est usant, moralement. Et on perd de l'énergie aussi, hein, parce que le travail qu'on laisse dans nos exploitations, j'ai peur qu'un jour ou l'autre, on le paye aussi, sur la rentabilité de notre outil. Mais bon, il faut bien défendre un prix qui aujourd'hui n'est qu'un prix pour survivre.
Dans son salon, les images du marché au cadran tournent en boucle sur une chaîne d'infos en continu. Emmanuel Roux aimerait pouvoir s'échapper de ce quotidien en famille.
Honnêtement, j'ai laissé un peu ma famille de côté, c'est sûr. Mes enfants pourraient vous le dire. Papa, on ne te voit pas beaucoup. Moi, je demande à vivre de mon métier décemment et j'espère pouvoir prendre que ce soit 8 jours, c'est peut-être pas grand-chose, mais 8 jours de vacances et partir avec mes enfants et ma femme. Surtout pour pouvoir décompresser, penser à d'autres choses aussi.
Demain, Emmanuel Roux, comme régulièrement le jeudi, ira à Plérin, au marché au cadran. Il espère une reprise des cotations avec un prix de revient d'au moins 1,40€, le prix de sa survie, comme il dit.
Et pour les éleveurs de porc, la concurrence se trouve à l'intérieur de l'Union européenne. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les prix pratiqués par les industriels espagnols ou allemands. L'Allemagne qui est particulièrement montrée du doigt par les agriculteurs. La correspondance à Berlin de Cyril Sauvageau.
Premier producteur de porc en Europe, troisième au monde derrière la Chine et les États-Unis, l'Allemagne ne recule devant rien pour grignoter des parts de marché à l'export. Ici, comme en France, mais à plus grande échelle, la concentration de la filière porcine a donné naissance à des exploitations gigantesques, entièrement automatisées, où s'entassent des milliers d'animaux. Résultat, la production allemande, plutôt bas de gamme, a presque doublé en 15 ans et inonde les marchés européens. Mais ce n'est pas tant l'élevage qui est en cause. Pour les producteurs français, la différence de prix, moins 20%, s'explique surtout au moment de l'abattage. Car si l'Allemagne a gagné en compétitivité, c'est grâce aux travailleurs des pays de l'Est, polonais, roumains, qu'elle emploie pour une misère dans ses abattoirs. Accusés de dumping social, attaqués pour concurrence déloyale devant la Commission de Bruxelles, les Allemands ont dû se résoudre à instaurer un salaire minimum pour les 80 000 salariés des abattoirs. Mais sa mise en place sera progressive et les syndicats dénoncent déjà les multiples arrangements trouvés par les industriels industriel pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.
Matignon ferme la porte à l'écotaxe au niveau régional, idée relancée par l'ancien ministre des Transports Frédéric Cuvillier. Le député maire socialiste de Boulogne-sur-Mer envisageait de le faire pour sa région, le Nord-Pas-de-Calais. Le gouvernement n'envisage pas du tout cette possibilité, a indiqué Matignon hier dans un communiqué. L'étau judiciaire se resserre autour du couple Balkany poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. C'est une information de Charlie Hebdo. Les magistrats ont saisi leur propriété de Giverny dans l'Eure. Le député maire de Levallois-Perret et sa femme doivent également vendre leur maison de Saint-Martin aux Antilles et remettre le fruit de cette vente à la justice. Le temps de ce mercredi 12 août, orageux dans l'ouest, calme et ensoleillé à l'est. Cet après-midi, les températures seront comprises entre 30 et 34 degrés dans la plupart des régions, sauf dans le nord-ouest où il fera au maximum 29 degrés, Nicolas.
Catherine Dutoux, on vous retrouve à 9h pour le prochain journal.